de réflexion sur le chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens qui concerne le combat spirituel. Et une fois qu'on aura fait cette partie-là, on parlera aussi de l'autorité spirituelle, parce que je crois qu'il est important pour nous de saisir quelle est l'autorité que Dieu donne à ses enfants, n'est-ce pas ? Alors, apprendre déjà à l'autorité, si on ne sait pas comment s'en servir, je trouve que ce n'est pas forcément sage. C'est pour cela que j'ai eu à cœur de commencer par ce thème, le combat spirituel, avec des choses très simples, parce qu'il ne faut pas non plus vouloir faire du combat spirituel quelque chose qui est réservé à une élite. Au combat spirituel, tous les enfants de Dieu y sont appelés à le vivre, à le réaliser, à le considérer, parce que je crois qu'il fait partie de la vie de chacun de nous. Et il ne doit pas être entrepris n'importe comment, parce que certains l'ont fait, et forcément derrière il y a eu des répercussions et pas des moindres. Mais l'apôtre Paul aborde ce sujet, et je crois qu'il est important pour nous de l'analyser. Donc je vous invite à faire cette lecture en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Bien des fois, on entend ce texte être pris par le verset, à partir du verset 13, qui dit « Puisque voilà, vous êtes dans le combat, prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister. » Et donc, il est question tout de suite de la liste de tout ce que Dieu a pu nous donner. Mais il y a un moment, je me suis arrêté sur ce texte à réfléchir et une image est venue sur mon cœur et c'était l'image du roi David. Le roi David qui se retrouve devant le roi Saül qui lui remet son armure. Et la parole de Dieu nous dit que David, il avait pris l'armure du roi Saül, mais il n'était pas accoutumé. Ce n'était pas une armure qui lui allait. Il ne savait pas quoi en faire. Elle n'était pas aux proportions, aux dimensions que David pouvait porter. Et avec sagesse, David, il s'en est défait. Il s'en est libéré. Il a enlevé cette armure qui n'était pas la sienne et pour laquelle il n'avait pas été préparé. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné une armure qui ne doit pas être quelque chose juste par connaissance spirituelle ou quelque chose que nous mettons dans un placard pour la sortir à la date d'un défilé, comme il peut y en avoir parfois. Vous savez, le défilé spirituel, il y a une victoire, on est là, mais quand il y a le combat, on est où? Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'en réalité, le texte nous amène tout d'abord, à savoir comment porter l'armure. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En réalité, je pourrais aller auprès de Dieu et dire « Seigneur, voilà, je veux mettre l'armure, mais à quelque part, si je ne comprends pas les bases, je dirais trois principes. J'en ai mis trois pour ce soir, trois principes de base. Premièrement, le besoin qui est le nôtre de comprendre qui va nous donner la force dans le combat. Si on va au combat par nos propres forces, on n'arrivera pas à faire face. Si on va au combat par nos propres opinions, par nos propres, je dirais même, idées de reprendre telle ou telle situation ou telle circonstance, ou de remporter la victoire sur tel ou tel sujet, on se trompe. Parce qu'on n'a pas été auprès de Dieu de dire, Seigneur, comment tu veux que je remporte cette victoire ? Qu'on analyse bien la parole de Dieu, Josué se trouva face à la ville de Jéricho et il était là, il regardait. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu envoya l'ange de l'Éternel qui va lui dire comment remporter la victoire. Est-ce que ça a marché ? Oui, parce qu'il avait la stratégie de Dieu. Mais il est important pour nous, pas seulement d'avoir la stratégie, mais aussi de chercher auprès de Dieu comment combattre. Vous savez très bien, en 1 Samuel chapitre 13, verset 22, la parole de Dieu, il nous dit, il arriva qu'un jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne se trouvait qu'auprès de Saül et Jonathan son fils. En réalité, dans ce texte, la parole de Dieu nous montre que tout le peuple n'avait plus d'épée. Il n'y en avait que deux pour aller se battre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui avait fait qu'il n'y avait plus d'épée ? Les ennemis, ok. Mais vous savez, c'est notre première réaction, c'est l'ennemi. Ils étaient laissés dépouiller et des forgerons et des forges, mais même des épées qu'ils avaient. L'ennemi essaiera toujours de nous déposséder de ce que Dieu nous a donné. C'est la raison qui fait qu'aujourd'hui encore, beaucoup, malheureusement, ne savent pas se servir des armes et disent « qu'est-ce que j'en fais ?» Ben, je la mets de côté. Mais au jour du combat, où elle est ton arme ? Ben, l'ennemi en a fait autre chose. On l'a utilisé pour autre chose. C'est devenu, excusez-moi, de la décoration. C'est devenu quelque chose qu'on a même oublié où on l'a posé. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de s'exercer, au lieu de comprendre, au lieu de s'approprier de ce que Dieu nous a donné, on l'a laissé de côté. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26, c'est dit, « Moi donc que je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bâton de l'air. » On pourrait avoir une épée dans les mains, mais si on n'a jamais pris le temps d'apprendre à l'utiliser, vous savez, on déplace juste de l'air. Et ce n'est pas ainsi que la victoire se prend. Alors, trois principes ce soir. Premièrement, au verset 10, la parole de Dieu nous dit, et nous est question de force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je peux voir le combat, je peux réaliser même l'ampleur du combat, mais qui peut ce soir dire, Seigneur, moi j'ai les forces pour les remporter. Que se passe-t-il si je vais au combat avec mon propre orgueil ? La défaite, elle est totale, immédiate. Le texte dit, même on pourrait peut-être avoir peur de dire, Seigneur, mais qui peut aller se battre avec une telle situation ? Qui peut aller faire face à une telle circonstance ? Et le texte nous invite vivement à dire au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Quand je réalise que ce n'est pas à cause de mes forces, de mes capacités, mais que je dois compter sur la force de Dieu, le combat est différent, n'est-ce pas ? Je vais autrement au combat. Je considère que ce n'est pas à cause de mes conditions physiques, mentales ou spirituelles que je vais pouvoir remporter, mais parce que je compte sur le Seigneur. Ce n'est pas parce que je suis parfait que je vais pouvoir remporter le combat, parce qu'alors, il n'y aura pas de bataille. Mais parce que je peux compter sur le secours de Dieu en disant, Seigneur, je viens chercher auprès de toi, Seigneur. Je discutais encore ce matin au téléphone avec quelqu'un et c'était un peu le sujet. Depuis un certain temps, ça revient. Et la personne me disait, mais j'ai des combats. Je dis, oui, mais tu passes du temps dans la prière, mais je n'ai pas trop le temps. Mais je veux voir la victoire. On veut tous voir quelque chose. Est-ce qu'on est prêt, excusez-moi, à en payer le prix ? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, moi j'ai besoin que toi, tu me transmettes cette force, que tu m'accordes, Seigneur, ce courage d'aller me battre dans la situation, au lieu d'attendre que toi, tu fasses tout pour moi. Alors quelqu'un me disait, mais vous savez, pasteur, moi j'attendais qu'au moment, le Seigneur le faisait comme ça. J'ai dit, et toi, ta part? Mais Dieu, c'est Dieu. Oui, et toi, ta part? Dieu, lui, il reste Dieu. Mais toi, tu as ta part à faire. Et je dis, si tu ne prends pas du temps avec Dieu, si tu ne prends pas du temps pour lire sa parole, si tu ne prends pas du temps pour muscler ta vie spirituelle, comment peux-tu attendre de remporter des victoires? Oui, mais l'Éternel combat pour vous. Oui, mais ça ne veut pas dire que toi, tu restes à la maison à regarder les feuilletons de l'amour, alors que tu as un problème et un combat spirituel. Excusez-moi, moi je suis direct des fois, parce qu'après je me dis, il faut arrêter de jouer, non? Je ne peux pas dire, Seigneur, c'est ton problème, tu te gères, moi je fais autre chose, je reste tranquille. Non, le Seigneur nous dit, viens, fortifie-toi auprès du Seigneur. Est-ce qu'on est venu chercher des forces auprès du Seigneur? Qui en a besoin? Moi je ne lève pas la deuxième main, autrement vous ne m'entendez plus. Mais on a besoin de la force de Dieu. On a besoin de dire, Seigneur, moi, dans telle situation, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, je compte sur toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je veux voir ta main à l'œuvre. Les plus beaux miracles, Dieu les fait sur nous. Les plus grands miracles, Dieu les fait sur nous. Je me rappelle d'un entretien que j'avais eu avec un frère qui faisait beaucoup de campagnes d'évangélisation en Afrique. Et il me racontait qu'un jour, il se trouvait à l'aéroport, après une campagne d'évangélisation, il y avait eu des milliers de personnes, ils avaient prié, il y avait eu des actions de Dieu, des guérisons. Il était à l'aéroport, il était là, et une femme lui court derrière en tant que lui, en train d'aller chercher son avion. Et cette femme lui dit, bah, pasteur, ne partez pas comme ça, priez pour mon enfant. Et lui, il dit, mais là, je suis en train de partir prendre l'avion. Mais non, priez pour mon enfant. Donc il pose la main, il dit, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il a besoin, mais tu lui donnes, amen. Et il est parti. Il ne pouvait pas faire autrement. Il était sur le chemin, l'avion l'attendait, dernier appel. Il est revenu 2 ans plus tard et quelqu'un demande à voir le pasteur. Et cette femme revient et lui dit, pasteur, vous vous rappelez de moi? Il dit, non, vous m'excusez, mais c'est un peu compliqué. Il dit, ben, vous vous rappelez à l'aéroport, j'étais venu vous chercher, vous étiez en train de partir, j'étais là avec mon enfant dans les bras, il était dans une couverture, vous avez prié pour lui. Il dit, oui, ça je m'en rappelle, j'ai failli perdre l'avion. Il dit, mais alors? Il dit, ce que je ne vous ai pas dit ce jour-là, parce qu'on n'a pas eu le temps, c'est que l'enfant était né sans les yeux. Il dit, alors? Mais vous avez prié pour lui et Dieu lui a donné les yeux. Et ce frère me disait, les plus beaux miracles, Dieu les a faits sans moi. Moi, je crois que Dieu est capable de tout. Néanmoins, ce n'est pas parce que ce frère, ce jour-là, il ne s'est pas penché sur l'enfant, ne l'a pas pris dans ses bras, ne l'a pas serré contre son cœur, il n'a pas fait... Non, c'était un homme, et c'est un homme de prière. Et parce qu'il n'a pas compté en disant, Seigneur, si je ne prie pas pour cet enfant, il ne sera pas guéri. Il a dit, Seigneur, tu sais ce qu'il a besoin, et tu lui donnes. Amen. N'est-ce pas? Alors ça ne veut pas dire qu'on va commencer tous à prier comme ça en disant, Seigneur, tu sais ce qu'il a besoin? Amen, alléluia, c'est fini, c'est réglé. Non, faisons bien la part des choses, parce que vous savez, après on peut partir dans l'excès, dans l'autre sens. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, combien d'heures je devrais prier? J'ai dit, écoute, c'est pas une question de temps. Je vais montrer une prière très courte dans la parole de Dieu. Il dit, et il a reçu ce qu'il avait demandé. Est-ce que vous connaissez la prière de Jabez? Elle est très courte. Et le texte dit, et Dieu lui donna ce qu'il avait demandé. Point à la ligne. Je dis, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de cœur. Mais ça ne veut pas dire que pour une question de cœur, tu ne dois pas passer du temps avec le Seigneur. Et plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus une heure, ça te semble 10 minutes. N'est-ce pas? Dieu a le temps. Pour lui, un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans c'est comme un jour. Donc, passe un jour du Seigneur avec lui. Ça sera déjà pas mal, non? Et dans ce texte, on voit cette invitation, frères et sœurs, à venir auprès du Seigneur. Donc la première chose est une question de force. Éphésiens chapitre 1, verset 22-23 dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui a besoin d'être rempli ce soir? Seigneur, moi je ne viens pas pour avoir un peu de force. J'ai besoin d'être rempli de ta force, Seigneur, parce que c'est toi la plénitude. Donc c'est auprès de Jésus-Christ que nous devons chercher des forces. N'est-ce pas? Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 et 10. C'est ce temps de partage entre Paul et Dieu. Il prie, il demande à Dieu de l'aide, du secours. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Est-ce que nous, on serait capable de dire, Seigneur, je me plais dans l'outrage, la calamité, dans la persécution, Seigneur, j'aime la détresse. Il y a des preneurs, non? Mais pourtant, c'est dans ces conditions-là qu'ils se vivent les plus grandes choses. Si on fait une analyse de ce qu'on entend parfois, des témoignages qu'il peut y avoir dans certains pays, mais c'est ce qu'ils vivent. Et forcément, ils voient la manière où Dieu intervient. Ils vivent des choses incroyables parce qu'ils ont aussi accepté de vivre des choses terribles. Un jour, une sœur me disait, « Mais pasteur, je ne comprends pas notre liste de prières, elle grandit tout le temps. » Je dis, « Oui, mais il est vrai aussi qu'on voit de victoire en victoire. » Il dit, « Oui, c'est vrai. » Mais il faudrait qu'à un moment, les sujets, il n'y en ait plus. Je lui ai dit, mais il n'y en aura plus quand on sera dans le ciel. Pour l'instant, on prie, ma sœur. Non? Et s'il y a des sujets qui viennent, ça veut dire que le Seigneur nous a considérés dignes de pouvoir apporter ces sujets devant le trône. Donc, soyons heureux de dire, voilà, il y a des sujets, mais Seigneur, on compte sur toi. On espère, on attend sur toi. Donc, la force. Deuxième condition importante, c'est une question de position. Il dit, le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Est-ce qu'on a pris une position pour tenir ferme contre les ruses du diable? Quelle est la position qui nous permet de rester ferme face aux ruses du diable? Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a mis l'armure que l'ennemi va partir en courant, hein. Parce qu'on peut être armé sans savoir quoi en faire. Et la question est pour nous d'avoir une position spirituelle. Quelle est la position spirituelle que nous prenons ce soir? Quelle est la position spirituelle que nous prenons dans les situations dans lesquelles on est mis en confrontation? Est-ce qu'on prend une position en disant, moi la parole de Dieu dit cela, donc je reste ancré dans la parole de Dieu et je sais que Dieu interviendra? Ou est-ce que nous cherchons à trouver un moyen pour arrondir les choses, pour éviter le combat, le conflit? Qu'est-ce que Dieu attend? Je me suis retrouvé dans cette semaine, on a été voir mon papa, et à ce moment-là, il y avait un petit moment de partage, et il y avait une jeune sœur qui remerciait mon père. Il disait, un jour vous m'avez dit quelque chose, c'était dur ce que vous m'avez dit, mais aujourd'hui si je suis là avec mon mari et un enfant en route, c'est parce que vous m'avez dit quelque chose qu'il me fallait me dire. Cette sœur, elle vivait dans une situation qui n'était pas cohérente, qui n'était pas correcte, et elle était au service, mais à un certain moment, il lui a dit, tu ne peux plus servir comme ça. Tu n'es pas dans la bonne position pour servir Dieu, donc tu vas t'arrêter. Oui, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, vous savez. Première réaction. Sauf qu'après, avec le temps, elle a compris, elle a saisi. Et là, elle disait merci, merci d'avoir fait ainsi. On a des positions parfois qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, à saisir, mais Dieu nous demande de les prendre. Quelle est la position que tu prends, mon frère, ma sœur, dans telle situation? Christ veut voir aussi ta décision. Est-ce que tu prends parti pour le Seigneur ou pour toi? Est-ce qu'on prend position pour la parole de Dieu ou pour nos paroles, pour nos engagements? Oui, mais Seigneur, moi je me suis engagé à cela. Oui, mais tu n'as pas demandé avant si moi j'étais d'accord. Et après, on s'attend que ça marche. Donc on a dit la position. Vous savez qu'il est question pour nous aussi de tenir compte, puisqu'il est question de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, de comprendre aussi qu'on a des armes offensives et défensives. Et la position, elle est importante, parce qu'à la base de la position, on nous touche, on tombe. Mais si on est bien ancré par terre, on a beau essayer de venir, hein. Vous avez déjà vu, moi j'ai jamais joué à ce sport, j'ai jamais trop compris ce sport, mais rugby. C'est là que vous les voyez, ils arrivent contre l'autre et ils poussent, et ils poussent, et ils poussent. Il dit, ben, j'espère qu'il a bien mangé parce que moi je serais là au milieu, je serais déjà écrabouillé, j'aurais des douleurs partout. Mais spirituellement, est-ce que le Seigneur ne nous demande pas de prendre parfois des positions et de tenir ferme? Et le but, c'est de ne pas laisser l'ennemi pouvoir s'approcher de plus. C'est-à-dire, le terrain, il est là, tu ne viendras pas un centimètre plus loin. Non, c'est moi qui va prendre du terrain. Et donc, il est question de demander du secours aux uns aux autres, et on est là, les uns et les autres, et c'est ça la prière de l'Église. C'est cette position où on pousse l'ennemi en arrière en disant, on va marquer le point. Alors bon, je vais sortir du sport, mais la réalité, c'est que spirituellement, c'est cela. On est là pour gagner du terrain, parce que, vous savez, parfois, on a laissé l'ennemi gagner du terrain. Gagner du terrain dans nos familles, gagner du terrain, même parfois dans l'Église, malheureusement. Et il est question de reprendre ce terrain, de le conquérir. Mais il est question pour nous d'une position spirituelle qui doit être cohérente aux Écritures et non pas à notre volonté. Troisième chose, verset 12, il nous dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il est question de savoir reconnaître l'ennemi. Parfois, on fait d'une personne, puisqu'elle a fait ou dit quelque chose, on la considère un ennemi. Mais en réalité, on devrait voir qui anime le cœur de cette personne et comprendre que ce n'est pas contre la chair et le sang qui est le problème. C'est contre ceux qui dominent sur son cœur. N'est-ce pas? On a un exemple incroyable dans les Écritures, la manière où Dieu libère des cœurs, des âmes, et qui jusque-là avaient une attitude qui était complètement aberrante. Mais au moment où Christ les a délivrés, ces hommes, ils sont devenus, excusez-moi, comme un agneau. On a parlé de l'homme de Gadara dernièrement, n'est-ce pas? Quelle transformation! Quel changement! Quelle situation glorieuse! On peut parler aussi de l'apôtre Paul. Il était animé, oui, mais d'un esprit religieux, pas de l'esprit de Dieu. Et certains voyaient en Paul un ennemi. Certes, parce que c'était lui qui les amenait en prison. Mais quand le Seigneur a remporté la victoire sur l'esprit religieux qui était dans le cœur de Paul, alors comprenons bien, il n'était pas possédé. Hein. Mais son état d'esprit n'était pas bon. Et certainement, dans les situations, dans les circonstances que nous vivons, vous savez, il y a des personnes qui malheureusement sont manipulées par l'ennemi. Et c'est sur l'ennemi que nous devons prendre victoire, pas sur l'être humain. Je me rappelle du témoignage d'une personne qui avait vécu les centres de concentration au temps des Deuxième Guerre mondiale. Et cette personne, elle se retrouvait face à un homme qui, toutes les fois où elle recevait un colis de sa famille pour pouvoir vivre, cet homme, il lui prenait, il se le faisait cuisiner, il le mangeait devant elle. Quelle situation horrible. Et cette personne, puisqu'elle était chrétienne, elle ne réagissait pas, elle priait, elle remettait ça au Seigneur. Et un jour, une fois que la guerre était finie, une fois que la situation était passée, des années même étaient passées, elle s'est retrouvée devant cette personne, et cette personne, elle pensait que ce jour-là, ben, elle aurait eu des réponses méchantes, mais elle avait vu que déjà le pardon avait été tel dans le cœur de cette âme que ce jour-là, ils ont partagé le repas ensemble. Il faut le faire, non? Pour le faire, c'est que le cœur de cette personne qui a vécu ça a dû considérer à juste titre qui était la véritable cible. Amen. Si demain vous deviez rencontrer la personne qui vous a fait le plus de mal et qui venait devant vous vous demander la prière, comment prierez-vous? Comment agiriez-vous? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je ferai? Et si ce n'est pas ta force qui vient à mon secours, Seigneur, certainement je me tromperai. Mais Seigneur, ta main, elle dépasse notre compréhension. Amen. Alors savoir reconnaître l'ennemi. Alors oui, certes, on doit prier, mais ne faisons pas l'erreur de prier dans la mauvaise direction. Demandons au Seigneur de prendre position dans le cœur de la personne. Demandons au Seigneur d'intervenir dans l'âme de cette personne. Et laissons Dieu gérer les choses. Amen. On va prier ensemble.